à toutes et à tous, vous êtes sur CFM 90.2 et il est l'heure de votre émission « Tout ce qui est humain est nôtre », l'émission animée par les bénévoles du Secours Populaire de Villefranche de Rouergue. Je suis Didier et comme d'habitude, c'est moi qui ouvre le bal.
Paul Durand, je m'occupe de l'international du Secours Populaire à Villefranche.
Bonjour, Véronique Morata, la responsable départementale du Secours Populaire.
Anne-Marie Sabatier, je suis coordonnatrice de l'aide alimentaire d'urgence à la Croix-Rouge.
Bonjour, Michel Guiraud, responsable départemental des Restos du Cœur.
On m'appelle Couscous, je suis au Secours Populaire et heureux d'y être.
Et moi, c'est Gisèle, comme d'habitude, fidèle au poste.
Bien, chers auditeurs, comme vous voyez, aujourd'hui, nous avons des invités exceptionnels. Nous avons d'abord les Restos du Cœur, la Croix-Rouge avec nous. Nous avons aussi notre secrétaire départementale, Véronique. Oui, Véronique.
Juste, je voulais excuser le président départemental de la Banque alimentaire qui ne peut pas être avec nous, mais que nous représentons à tous les trois. Voilà.
Et oui, parce que ces quatre organisations, Croix-Rouge, Resto du Cœur, Banque alimentaire et Secours Populaire, sont toutes les quatre bénéficiaires du plan européen d'aide aux plus démunis. Or, celui-ci, depuis quelques années, et plus précisément à nouveau en ce moment, est mis en danger par les instances européennes. Donc, chers auditeurs, c'est un débat sur ce PEAD que nous vous proposons. Alors d'abord, est-ce que l'un d'entre vous peut me dire qu'est-ce que c'est effectivement que le PEAD, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se met en marche, depuis quand, un peu l'histoire, quoi, le fonctionnement? Paul, peut-être?
Oui. Le PEAD, il est né en 1987 avec Delors, qui était président de la Commission européenne, et Jacques Delors, oui, président de la Commission européenne, et je ne sais plus qui est-ce qui était ministre de l'Agriculture en France à l'époque, mais enfin bon. C'était l'époque où la production agricole de l'Europe, qu'on appelait encore le marché commun, était excédentaire. Donc le PEAD a servi d'exutoire, de volant de sécurité pour les produits agricoles de base, le blé avec les pâtes, le lait, le fromage avec le lait, pour le lait, etc. Il y avait très peu de viande, il y avait quand même quelques fruits, mais c'était surtout l'époque où le fonctionnement du budget européen était pratiquement exclusivement de la solidarité. Les jeunes ne savent pas ce que ça veut dire, mais les Haïtiens se souviendront des fameux montants compensatoires. Les montants compensatoires, c'était les différences de prix par rapport à un prix unique européen dans les monnaies de chaque pays. Donc, lorsqu'un pays vendait un produit à l'Italie, il était payé en lire, et la lire valait, je ne me souviens plus combien, mais enfin, valait beaucoup moins que l'unité de compte européenne, donc le montant compensatoire était remboursé. Bon, en fait, le budget européen était essentiellement axé sur ces opérations de solidarité entre les pays. C'était aussi, il faut s'en souvenir, l'époque où l'arsenal atomique de l'URSS ne permettait pas aux financiers de faire des fantaisies. Bon. Non, mais c'est de l'histoire. Hein. Et puis, il y avait aussi 2 milliards d'humains en moins sur la planète. Ce qui explique qu'il y avait que la production agricole, compte tenu de ce qu'était l'organisation du commerce, n'arrivait pas à être entièrement exportée. Bon. Je rappelle aussi qu'il y avait des quotas. Des quotas pour le lait, des quotas pour les céréales, des quotas pour le sucre, pour la betterave, etc. C'est-à-dire que les agriculteurs étaient pénalisés lorsqu'ils produisaient plus qu'ils ne pouvaient vendre. Nous n'en sommes plus là. On est aujourd'hui dans un marché spéculatif qui est exactement le contraire de ce qu'était ce marché solidaire. ce programme d'aide aux plus démunis a été mis en place dans ces conditions, dans cet état d'esprit, et surtout avec des pays qui étaient organisés de façon très différente pour assumer leur solidarité interne. L'Allemagne, par exemple, est une république fédérale, et tout ce qui concerne les compensations sociales est accordé, géré par les Landes, les Länder, et pas du tout par l'État. La Pologne n'existait pas à l'époque. Enfin, elle n'existait pas. Elle n'était pas dans l'Europe. J'en parle parce qu'elle est aujourd'hui un bénéficiaire aussi. Bon, voilà. Le PAD est né dans des conditions très différentes de ce que nous avons aujourd'hui. Et il y a deux ans, deux pays, l'Allemagne et la Norvège, la Suède, je ne sais plus, ont posé à la Cour de justice européenne la question de savoir s'il fallait continuer à mordre sur le budget pour financer des stocks européens distribués aux plus démunis. On était sortis de l'époque où ces stocks étaient constitués avec des excédents. Il fallait les prélever sur des possibilités d'exportation. C'était un tout autre problème. Bon, et la Cour de justice européenne a statué en disant oui, c'est plus possible de continuer comme avant. Voilà. En novembre dernier, ou en novembre pas dernier, 2011, un accord est intervenu pour dire on va continuer avec une légère réduction des budgets sur la LCS que nous avons fait jusqu'à présent, mais à partir de 2014, il faut tout réorganiser. Et la réorganisation qui se dessine risque d'être faite à partir, ce coup-ci, non plus des excédents de production, mais des excédents de commercialisation, c'est-à-dire à partir des produits finis qui n'ont pas pu être vendus. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'immense différence. Alors que nous avions affaire avec des produits dans lesquels il n'y avait que des coûts de distribution, là, nous aurons affaire avec des produits qui auront été conditionnés, emballés, transportés, intégrés dans le système de marge des centrales de distribution et d'achat, etc. Dans ces conditions, il faudra se battre pour que la réalité des besoins soit prise en compte au meilleur coût. Et là, je suis pas en mesure de dire comment ça peut se faire. La pression de l'opinion sera primordiale.
Je pense qu'on y reviendra aussi là-dessus. Oui, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Non, d'accord. Alors, ce programme d'aide, ça aide quelles organisations chez nous ? Qui veut prendre la parole ? Combien de personnes ? Combien de personnes déjà en Europe ? Combien de personnes en France ? Qui veut prendre la parole ? Ah, les Restos du cœur.
Alors, le programme européen d'aide aux plus démunis aide en France quatre associations que vous avez évoquées tout à l'heure. Ça aura la Croix-Rouge, le Secours Populaire, les banques alimentaires et les restos. Au niveau de l'Europe, ça représente 18 millions de personnes. Et ces 18 millions de personnes qui, s'il n'est pas reconduit, n'auront plus rien à manger. Donc il est absolument nécessaire que l'ensemble de la population se mobilise pour maintenir ce programme-là. Au niveau de l'aide alimentaire en France, c'était de l'ordre d'une cinquantaine de milliards. Et si elle était réduite telle qu'il est envisagé d'être réduit actuellement, on tomberait à quelque chose qui serait à moins de 50%, qui serait autour de 17 ou 18%. C'est-à-dire qu'il faudrait d'une façon ou d'une autre revoir l'aide alimentaire parce qu'on n'aurait pas les réponses pour pouvoir satisfaire les besoins des plus démunis.
En France, c'est combien de millions ?
Excuse-moi, couscous.
52, je pense que c'était.
Non, 2 millions de personnes aidées.
2 millions de personnes en France.
Ah,
4 millions et quelques. 4 millions en France. Et 4 millions bon, qui sont répartis sur les 4 associations de façon inégale. En sachant que les banques alimentaires réalimentent en général les CCAS, alors que les 3 autres associations sont directement avec la population démunie au contact. Et ça représente quand même, grosso modo, autant pour les unes que pour les autres, quelque chose de 25% de ce qui est distribué, même peut-être plus.
Pour le secours populaire, c'est presque 40% de l'aide alimentaire que nous distribuons. Sachant que sur le département de l'Aveyron, si on chiffre l'aide alimentaire européenne, elle représente 30 000 euros. Donc l'équivalent de 30 000 euros est impossible à trouver, sachant qu'avec ces 30 000 euros, on ne pourrait pas convertir ça en achat de produits alimentaires, parce qu'on n'en aurait même pas un tiers de produits alimentaires avec cette même somme. Donc ça nous pose un problème de comment demain on répondra aux besoins alimentaires. Actuellement, il faut savoir que les personnes ont bien besoin des 4 associations pour pallier à l'aide de première nécessité qui est l'alimentaire. Quoi. Voilà.
Et chez vous, la Croix-Rouge ?
Alors, au niveau de la Croix-Rouge, nous sommes partenaires, effectivement, je dirais, des 3 autres associations, puisque nous venons en complément. Au niveau national, c'est 30 millions de repas qui ont été distribués pour 300 000 personnes aidées. À la Croix-Rouge, ce sont 633 délégations locales qui sont impliquées dans l'aide alimentaire. La Croix-Rouge étant sur 2 tableaux, c'est-à-dire l'aide alimentaire directe, c'est-à-dire avec les gens qui viennent directement dans nos centres de distribution, mais également au sein de nos SAMU sociaux, c'est-à-dire nos maraudeurs de nuit qui rencontrent les personnes dans la rue, pour lesquels également nous apportons une aide alimentaire. La suppression du PEAD sera pour nous localement importante, puisque nous nous servons à presque à 60% sur la banque alimentaire. Et le reste étant pris sur le budget direct de la Croix-Rouge. Donc il faudra pallier, non comptant aux achats que l'on fait actuellement, mais il faudra pallier au manque de ce qui nous est donné par le PEAD.
Ce qui semble difficile à réaliser. Quoi.
Très difficile à réaliser.
D'accord, de toute façon on va en parler un peu plus tard durant l'émission. Je crois que Couscous, tu voulais intervenir.
Un petit peu, oui, un petit peu. Pour dire simplement que plus on entend les gens développer l'intérêt du PEAD, plus on s'aperçoit qu'il va falloir réagir. Réagir, c'est pas faire la révolution nécessairement, mais c'est montrer quand même l'utilité de ce PEAD, sans pour ça, avec des manifestations qui s'imposent, et ne pas laisser les choses se faire, ne pas laisser les choses en état, aller plus loin, alerter le gouvernement qui m'a pas l'air de bouger beaucoup à ce sujet pour l'instant.
On va en parler un peu après. Tout à fait.
Ce que je voulais, c'était susciter, autant que faire se peut, une réaction positive.
C'est le but aussi de cette émission, quoi. Et de toute façon, on en parlera aussi tout à l'heure, mais il y a effectivement des actions qui sont prévues d'ici peu, durant le mois prochain. Bien, nous allons commencer à faire une petite pause musicale, si vous voulez bien. Ah, Paul Durand, oui.
Oui, j'ai dit tout à l'heure que...
Il n'y a pas une action qui est prévue à Paris. Il n'y a pas une action qui est prévue à Paris.
Tout à fait, Gisèle.
J'ai vu ce matin quelque chose de grandiose. Je ne me souviens plus, je ne l'ai pas en tête.
Si, tout à fait, mais on va en parler un petit peu après, Gisèle.
Ah, d'accord.
Voilà. Oui, Paul.
Oui, j'ai dit tout à l'heure que la pression de l'opinion serait importante. L'action et les délibérations du Parlement européen le seront aussi. Le Parlement européen a, semble-t-il, pris conscience de l'importance de ce problème tel qu'il a été souligné par les Restos du Cœur, la Croix-Rouge et nous-mêmes.
Eh bien, nous verrons tout à l'heure.
Pour rebondir sur ce que dit Paul, il y a quand même 540 députés européens qui se sont prononcés pour le maintien de cette action-là. En sachant que la question, c'est quand même une question de fond et c'est une question structurelle au niveau de l'Europe, puisque actuellement, tous les États participent à ce PEAD qui était basé sur les excédents, comme l'avait dit Paul, alors qu'il y a des États, ceux qui ont contesté la situation, qui, eux, ont un système fiscal dans lequel c'est prévu. Donc il se trouve donc à dire nous finançons deux fois l'aide européenne. Et nous voulons que ça devienne équitable, pour un mot que nous utilisons beaucoup, l'équité n'étant pas la même que celle que nous envisageons nous. Alors ils se sont prononcés pour le maintien de cette aide-là. Le problème, c'est sous quelle forme, parce que les projets qui ont été mis font qu'elle sera très très fortement réduite, comme on l'a dit tout à l'heure. Et les quatre associations que nous représentons, au niveau national, s'étaient réunies et elles étaient parties sur l'idée qu'on ne fallait plus parler d'aide alimentaire aux plus démunis, mais de droit à une alimentation équilibrée pour les personnes démunies. Et dans cette situation-là, on n'est plus dans la même perspective. Par contre, c'est sûr qu'en termes d'économie, et comme c'est l'économie qui a le pouvoir actuellement, on est dans la même perspective.
Moi, je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
À tous les recalés de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste.
On gardait toujours une place à table, une chaise, une soupe, un coin dans l'étable. Aujourd'hui, nos paupières et nos portes sont closes. Les autres sont toujours, toujours en overdose.
J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir. Mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. C'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim. Mais ça le deviendrait si on n'y change rien.
FM 90.2 et vous écoutez toujours tout ce qui est humain et nôtre. Et nous poursuivons donc notre débat sur le PEAD. Alors, j'aimerais savoir que vous me disiez où en est la démarche au niveau européen, au niveau des politiques, au niveau de l'Assemblée européenne et de nos dirigeants. Véronique, peut-être.
Alors oui, juste un peu, ça répondra en partie à ce que dit, aux questions que se posait Couscous, c'est que c'est vrai que les États, notre État bouge beaucoup. Il y a aussi le collectif des quatre associations qui régulièrement travaillent avec les ministères concernés et préparent les négociations à faire en lien avec l'État français. Donc il faut savoir que on fait partie des États où les politiques de tous les bords nous soutiennent dans cette démarche-là et que la difficulté se trouve notamment au niveau de l'Allemagne. l'Allemagne, au niveau de l'Angleterre, ou voilà, pour revenir à ce que disait Michel des Restos du Cœur, c'est des États qui ont intégré ça dans leur fonctionnement, et donc eux, ils résistent puisqu'ils ne veulent pas financer, ils estiment qu'ils financeraient deux fois cette aide-là. Ce qui est pour nous réconfortant, c'est de voir qu'au sein de ces pays, il y a actuellement des associations, hein, un peu comme les nôtres, qui sont dans la même activité sociale et de solidarité, qui commencent à bouger, elles aussi, et qui nous ont rejoints sur le site de The Airfoot Project. Vous pouvez d'ailleurs aller régulièrement pour manifester le soutien que vous nous portez en allant sur www.theairfootproject.com.
Je voulais rebondir sur ce que disait Véronique. Les présidents nationaux des quatre associations ont tous été reçus par les différents ministres, en particulier le ministre de l'Agriculture, et aussi par le président de la République. Ils ont exposé dans toutes les dimensions possibles la problématique. Nous savons que nous avons été entendus, que nous avons été soutenus, mais effectivement, les résistances se situent au niveau de l'Europe et au niveau de la structure du fonctionnement européen. Et la question, c'est comment les députés européens et la Commission européenne vont arriver à triturer, à tourner dans tous les sens les textes et le fonctionnement européen pour rentrer dans les clous afin que cette reconnaissance à l'aide alimentaire soit vraiment reconnue et soit équitable pour tout le monde.
Alors moi, je suis un peu un candidat hein, au niveau des affaires européennes, mais ces pays-là qui ne veulent plus participer, il n'est pas possible de faire sans.
Non.
Non. On ne peut pas, par exemple, dire, bon, ben, OK...
Non, sur l'Union européenne. Ils sont dans l'Union européenne, donc il faut que l'accord soit trouvé de l'ensemble des pays qui sont dans l'Union européenne. Quoi.
Parce que c'est à l'unanimité, l'accord, voilà. C'est ça.
Et oui.
Lors de la dernière rencontre des chefs d'État fin novembre, il y a eu des chefs d'État, qu'on ne va pas nommer par délicatesse, qui ont systématiquement refusé de signer un accord. Donc tout est toujours en question et sans aucune solution pour le moment. Il y a des choses qui se passent, mais on n'a pas d'éléments très clairs actuellement.
En gros, là, ce qu'il faut savoir, c'est que fin novembre, donc il n'y a eu aucun vote qui ne s'est fait.
C'était le 23.
Voilà. C'est ça. Donc rien ne s'est fait. Donc conclusion, c'est reporté à fin janvier 2013. Ceci dit, il va falloir qu'ils se prononcent sur quelque chose. Hein. Donc on sait que plusieurs choses se dessinent, hein. Notamment ils avaient émis le projet d'une enveloppe financière qui serait redistribuée aux associations. Donc là, on ne sait pas trop comment les choses pourraient se voir. Parce qu'on sait déjà que l'enveloppe prévue, elle représente 50% de moins que ce qui est actuellement. Et en plus, ce qui est plus grave, c'est que cette enveloppe ne devrait pas subvenir qu'à des besoins alimentaires, mais prendre en compte aussi d'autres besoins, dont des besoins d'hygiène, de logement, etc. Donc on ne voit pas comment on va pouvoir continuer avec, même si c'est une enveloppe qui fera 50% de moins, ce qui doit servir à d'autres volets en plus que l'alimentaire. Donc c'est un peu statu quo là.
Ah, oui. Alors je reviendrai au niveau de la Croix-Rouge. Actuellement, effectivement, ce coup de ciseau dans l'aide alimentaire serait doublement pénalisante pour nous, puisque déjà, dans nos aides, nous avons déjà l'aide que l'on porte au logement, que l'on porte aux produits d'hygiène, que l'on porte de plus en plus à payer des médicaments que les gens ne peuvent pas payer, que nous servons également pour du carburant, que nous servons également pour du chauffage. Donc nous serions doublement pénalisés puisque déjà cette enveloppe dans laquelle seraient inclus ces aides-là, nous les donnons. Donc notre pénalité serait double.
Globalement, je voulais dire que cette aide qui tarde, effectivement ça tarde, ça nous met un peu dans l'urgence et dans l'inquiétude, mais en même temps c'est une chance pour nous, pour mobiliser le public, pour que tout le monde, ça nous donne un délai de plus pour que tout le monde signe, pour faire monter le nombre de signatures sur le site des Airfoot Project. Et en même temps, ça a quand même permis aux associations des pays qui sont un peu dans l'opposition à ce projet-là, qu'en même temps, elles étaient concernées. Et elles sont en train de se mobiliser, entre autres, comme le disait Véronique, les associations allemandes, surtout, ont pris conscience que l'aide de l'État, c'était une chose, mais que ça ne suffirait sûrement pas face à la montée de la précarité pour qu'elles puissent répondre à toutes les sollicitations dont elles vont être sujets. Et donc, elles sont en train de se rapprocher avec nous et de donner encore plus de force à cette revendication.
Oui, en complément de ce que dit Michel, je crois qu'il faut aussi préciser que tout le monde est d'accord sur le principe. Le problème, c'est que les politiques fiscales des divers pays sont tellement différentes que certains pays auront, comme ils l'affirment, l'impression de payer une fois pour ce qui se fait à l'intérieur du land ou du pays, et une autre fois pour ce qui se fera en Europe. Donc c'est davantage des problèmes juridiques ou fiscaux que des problèmes de principe. Au niveau des principes, tout le monde est d'accord. Raison de plus pour que on aiguillonne les spécialistes, les administrateurs, les politiques pour trouver les solutions.
Pour rebondir sur Paul, je rebondis sur tout le monde. Avec les quatre associations, on avait saisi tous les élus du département et même les élus régionaux. Et petit à petit, on a des réponses où ils nous disent qu'ils nous envoient des courriers qu'ils ont écrits, qu'ils ont fait remonter au ministre, etc. Donc je pense que le boulot qu'on fait, il porte ses fruits. Maintenant, il faut qu'il aille beaucoup plus loin et que surtout qu'au niveau... Je pense que c'est plus un problème de technocrates et de commissions européennes et qu'ils arrivent à trouver des solutions aux problèmes que leur posent les politiques.
Et est-ce qu'on a des vues de solutions, des à part celles dont tu as parlé tout à l'heure? Est-ce qu'on a d'autres vues, non?
Non, pas de solution. La vue est insuffisante, point.
Voilà. Ben oui, si on doit nous couper de 50% déjà
l'aide... Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'aide du PEAD 2013, on sait déjà que les quantités, elles ont baissé. Puisqu'on commence à recevoir les quantités d'affectation de l'aide 2013, et on sait déjà que ces quantités-là, elles ont baissé. Donc, voilà quoi. Donc, on est plus. Chaque jour qui passe nous met de plus en plus en difficulté, quoi, par rapport aux réponses qu'on pourra faire demain sur l'aide alimentaire.
Et comme on n'a pas de perspective, on est comme tout à l'heure quand on venait sur la route, dans le brouillard.
Eh oui, dans les spectatives, tout à fait. Tout à fait.
Mais, moi, je ne sais pas, mais j'ai envie de hurler contre ce qui se passe actuellement. Comment ces gens qui sont nantis, super nantis, peuvent laisser dans la misère de telles quantités de personnes? Ça, moi, ça me... C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Bon, bien sûr, j'arrive là, je trouve ça... Enfin, moi, ça me catastrophe. C'est vraiment...
Voilà. On est tous effectivement un petit peu énervés, un petit peu révoltés. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est cette explication qu'on a là. Et on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pense, quoi. Ce ne sont pas simplement des gens qui ne veulent pas. Non, ce sont des problèmes juridiques. Et c'est un peu... Enfin bon, on va pas non plus... Mais c'est un peu le problème de l'Europe, quoi, en réalité. C'est qui nous retombe dessus, quoi. Hein, je veux dire, à tous les niveaux, c'est comme ça. Et ben voilà, chez nous, pour nous aussi, quoi. Véronique, tu veux dire quelque chose peut-être?
Non, c'est pas pour faire monter un petit peu la pression, mais il faut savoir qu'en plus cette aide-là, telle qu'elle est actuellement, elle ne représente même pas 1,20€ par européen. Donc dans le qu'on connaît le budget de l'Union européenne, c'est pour eux c'est rien, quoi. Ça représente rien, alors que pour nous c'est la clé. C'est la clé de la solidarité sur l'alimentaire.
C'est
donc
vital.
Donc voilà, c'est là qu'il y a un décalage le plus complet, quoi. Donc c'est pour ça que la pression monte et que plus on sera à dire qu'on n'est pas d'accord, plus ça peut influer quand même les décisions finales que vont prendre le Parlement européen. Donc faut pas se dire que ce qu'on fait là, ça sert à rien, parce que ce qu'on fait bouger ensemble, c'est le seul argument qui nous reste pour qu'on puisse demain pouvoir continuer à aider ceux qui ont besoin de nous sur l'aide alimentaire.
Dans le même ordre que ce que vient de dire Véronique, c'est un budget prévisionnel sur 7 années qui est en balance. Il représente pas loin de 950 milliards. Et l'aide du PAD, ça représente à peine 2 milliards sur ces 950 milliards. Donc il faut replacer les choses dans leur juste dimension. Est-ce qu'on laisse les gens sur le bord du trottoir ou sur le bord du chemin pour 2 pour 1000 J'agrandis un peu. Hein.
Oui, voilà. Oui,
je reprendrai également les termes de notre directeur de l'action sociale à la Croix-Rouge, M. Didier Piard, qui dans un communiqué nous a transmis « Alors que l'Europe vient de recevoir le prix Nobel de la paix, les quatre associations s'injurent contre le fait que l'on remette en cause un programme alimentaire qui concerne 18 millions de personnes démunies en Europe et qui ne coûte, et j'en reviens sur ce chiffre, 1 euro par an et par habitant. »
Alors maintenant, si au pire des cas, si demain, effectivement, il n'y a pas de solution, mis à part celle que nous a, dont tu nous as parlé, Véronique, quels sont nous, à notre niveau, là, je veux dire, toi, Véronique, à Rodez, nous, à Villefranche, vous, à Rodez, au niveau associatif, quelles sont les possibilités pour essayer de pallier? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que, moi, je ne sais pas, moi, je fais les collectes alimentaires avec le Secours Populaire. Je trouve qu'on en fait déjà pas mal avec Villefranche. Si on devait doubler ou voire tripler le nombre de... Mais ce serait impossible. On se ferait virer par les gens. Et puis les gens ne peuvent pas. Et puis même au niveau organisation... Il y a ça aussi, tout à fait, Paul. Tout à fait, oui.
Je crois qu'il faut... Il y a un moment donné où il y a un stop à tout. Nous, en tant qu'association humanitaire, on a un rôle d'aiguillon des pouvoirs publics. On s'en tient à ce rôle-là. Si on a, ça fait longtemps qu'on tire le signal d'alarme, c'est pas seulement depuis maintenant, ça fait déjà 3 ans qu'on a engagé. On a accéléré le processus depuis presque un an en faisant le collectif des 4 associations. On a été en prévention. Au début, quand on a commencé à en parler, on nous disait non, mais c'est pas possible, je veux dire. Donc si, c'est possible. Mais si demain, c'est les émeutes de la faim qui arrivent, eh bien, ça sera les émeutes de la faim, parce que quand au bout du chemin, il n'y a plus de solution, eh bien, s'il faut en arriver à ce que les gens qui ont faim soient dans la rue, eh bien, on sera dans la rue ensemble, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas multiplier les efforts de solidarité. Nos donateurs nous aident le plus qu'ils peuvent, soit sous forme financière, soit sur des dons matériels ou d'aide alimentaire, mais il ne faut pas oublier que chacun à son niveau est dans un contexte de crise économique et que tout le monde... fait ce qu'il peut comme il peut, quoi. Donc après, au bout d'un moment, l'échec, il se joue dans des bureaux où on n'a pas accès. Et voilà, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Nous, on essaie d'aller au mieux, d'être au plus près des gens. Mais demain, on ne va pas choisir... quels critères on va choisir et décider qu'un aura droit à une aide alimentaire et pas l'autre. Non, on ne fera pas ça, quoi. Donc je veux dire, après, il ne nous restera que la rue, quoi. Voilà.
Surtout qu'en plus, on nous parle de la réduire, mais en même temps, la demande est exponentielle, quoi.
Il faut savoir que chacun dans nos structures, on a une augmentation en moyenne de 20-30% de personnes que l'on aide, que ce soit en milieu urbain ou rural. Donc, c'est tout le monde qui est touché et c'est l'ensemble des associations. Donc, nos budgets sont en train de diminuer puisque les subventions diminuent ou disparaissent. Donc, on ne peut pas toujours s'appuyer sur le bénévolat, le volontariat et l'aide des gens qui ont le moins, quoi. Il va falloir qu'à un moment donné, tout le monde s'y mette, quoi.
Je vais vous donner un exemple très précis, hélas, et tout frais. Ma femme, qui était de permanence hier soir au Secours Populaire, est rentrée bouleversée parce qu'elle avait vu rentrer une dame qu'elle ne connaissait pas, mais qui lui a paru être en détresse. Et elle l'a vu ressortir demi-heure après avoir passé une demi-heure avec la bénévole qui est chargé d'examiner la validité des demandes comparée à nos possibilités d'aide. Elle l'a vu repartir en larmes. Voilà. Alors, ça ne durera pas autant que les impôts, ça. Viendra un jour, après les larmes, il y aura la colère.
Et puis, de toute façon, on commence déjà par mettre des antivols sur la viande dans les supermarchés. Peut-être un début aussi. Ça peut ouvrir les yeux aux gens, je ne sais pas. Oui.
Je voulais dire qu'au niveau des restos, on est sur les mêmes perspectives que le Secours Populaire, puisque cette année, globalement sur le département, on est à plus de 20% d'augmentation des personnes inscrites après 3 semaines de fonctionnement. Donc, les personnes en détresse augmentent, et Sylvienne, c'est pas par hasard. Et je dirais comme Paul, sur un centre que je ne nommerai pas, sur 108 demandes d'inscription, il y a eu 15 rejets parce que les personnes croyaient pouvoir passer et elles ne passaient pas par rapport au barème. Donc il y a une espèce d'inquiétude latente, une inquiétude sociale et de risque, de peur, qui est latente aussi. Et si nous ne pouvons plus répondre, à part un mouvement d'humeur de la population, je ne vois pas quelles pourraient être les solutions. L'autre solution, ce serait que nous disions tout bêtement, ben nous, terminé, on ne peut plus, on arrête. Et là, si on fait ce qu'on s'est amusé à faire au resto, on a chiffré pour 385 bénévoles à l'année, on arrive à 70 000 heures d'activité, multiplié au SMIC, ça fait plus de 630 000 euros par an. Peut-être qu'à ce moment-là, on dira non. Mais est-ce qu'on doit nous donner les solutions ?
Alors, au niveau local, au niveau de la Croix-Rouge, jusqu'à maintenant, nous sommes rentrés dans aucune critère de composition de revenus par rapport aux familles que nous aidons, c'est-à-dire ils viennent soit spontanément ou via des associations ou des organismes sociaux, que l'on donne sans critère de revenus. Je dis bien jusqu'à maintenant, sur l'Aveyron, après un an de fonctionnement, on arrive. Je ne suis pas aussi sûre qu'on pourra continuer sur cette ligne, parce qu'effectivement, si on a la suppression d'une partie du PEAD et qu'il va falloir piquer sur nos budgets, on va être peut-être, nous, obligés de poser des barrières. Et là, par contre, se remettront en cause les 7 valeurs de la Croix-Rouge qui sont chez nous, hein, les valeurs de neutralité, d'humanité. Et là, par contre, seront remises nos 7 valeurs.
Bien, alors je crois que on a des petites actions quand même de prévues. Hein, on va pas se laisser marcher dessus quand même comme ça non plus sans gueuler un bon coup, je pense. Donc, qui c'est qui veut commencer sur les actions ? Le air foot, là, on parle du air foot depuis tout à l'heure. Véro, peut-être ?
Oui, alors, le air foot, c'est pas une grosse bête noire, c'est un site déjà. Voilà, et sur ce site, donc, qui est commun aux 4 associations humanitaires qui défendent donc l'aide alimentaire. Plus vous serez nombreux à vous inscrire, ben plus ça nous aidera pour qu'on nous soutienne. Voilà, donc en laissant votre adresse email, votre nom, votre prénom. Voilà, et d'autre part, on a décidé d'organiser des air food géants un peu partout en France. Alors, à Paris, le 22 décembre, il y aura un air food géant. Ça consiste en quoi ? C'est-à-dire que tous les bénévoles et bénéficiaires des 4 associations vont venir le plus nombreux possible, s'installer pour un repas avec une assiette, un verre, mais bon, une assiette vide, voilà, et des couverts en tenue sombre, pour donner une image un peu symbolique à ce qui nous attend si demain disparaît et remis en cause l'aide de l'Union européenne. Voilà. Donc ça, c'est la première initiative proche dans ces jours à venir. Et nous prévoyons, nous, sur le département de l'Aveyron, les 4 associations, d'organiser un air foot géant le 23 janvier, donc le mercredi 23 janvier, de 11h30 à 13h. À Rodez, donc tout près du marché, donc tout près de la préfecture, en fait. Voilà, on reviendra dessus sur le lieu et tout ça, puisque nous sommes en train de l'organiser. Et plus on sera nombreux, plus ça aura un impact. On a prévu de le filmer pour le mettre en prêt en ligne sur le site de The Air Food Project. On a prévu également d'avoir des amis qui nous soutiennent en jouant un peu de musique, etc., pour quand même donner une note un peu de rassemblement et qui est dans notre esprit de fonctionnement aux 4 associations. Donc voilà, festive malgré tout, autour de l'assiette vide. Voilà, et plus on arrivera à se mobiliser ce jour-là, malgré le froid et l'hiver, plus on aura une chance de faire savoir qu'on bouge. Alors voilà, donc dès maintenant, c'est important qu'on s'y prépare pour organiser des cars, on espère, qui viennent d'un peu partout. Les politiques qui nous ont soutenus dans toutes nos démarches vont être informées, donc dans la mesure de leur agenda politique, ils essaieront de venir auprès de nous. nous, hein, que ce soit au niveau sénateur, député, élu des mairies, des conseillers généraux, régionaux, voilà. Tout le monde, on s'est réparti une mobilisation générale. Voilà, alors on espère que cette mobilisation, elle ira vers la poursuite et pas vers l'enterrement de l'aide du PEAD. Voilà, suspense.
Oui, vous pourrez retrouver, je mettrai sur l'adresse email sur le podcast de l'émission. Voilà. Vous pourrez le retrouver.
Il est important que chaque association mobilise au maximum ses bénévoles, mais qu'au-delà des associations, la population vienne apporter son soutien, parce que les bénéficiaires, bien sûr, et même ceux qui ne le sont pas, et pour montrer que, au-delà de l'image que l'on voit le plus souvent, qui est celle de nos dirigeants nationaux, politiques ou de nos dirigeants nationaux associatifs, la misère, elle est dans tous les recoins du pays, y compris dans l'Aveyron, même si quelquefois on ne la voit pas parce qu'elle se cache souvent dans les replis de nos vallées. Et nous sommes un peu les porte-parole de tous ceux qui ne sont pas encore venus nous rencontrer. Donc il est important qu'on soit le plus nombreux possible pour faire bien voir que ce projet européen, c'est un projet de terrain, au plus proche du terrain et dans les moindres replis.
Je loue des chambres d'hôtel aux étages élevés. Je fixe les quelqu'un de ma fenêtre avant de les capturer. Je les habille de peut-être, c'est l'attraction de les sceller. Je photographie des gens heureux pour essayer de leur ressembler. J'admire cet éclat dans leurs yeux, l'étudie pour le développer. Je loue des chambres d'hôtel en étages élevés. J'aime les minois facétieux, leurs sourires écorchés. Maladroits, paresseux, fragiles ou réprimés. Je photographie des gens heureux, sur le papier leur rayon se voit. Je ne trouve rien de plus précieux que cette étincelle ornée de soie.
Nous retrouvons après cette petite pause musicale pour notre actualité. Alors notre actualité, c'est déjà le chocolat de Noël. Le chocolat de Noël, c'est le 22 décembre, c'est ça. Ça va se passer sous les arcades de Villefranche, sur la place de la collégiale. Et ben, nous invitons les Villefranchois à venir passer un petit moment avec nous. Comment ?
De 14h à
17h, dit Josie. Nous invitons les Villefranchois à venir passer un petit moment avec nous, prendre un petit chocolat, discuter 5 petites minutes, voir le Père Noël vert, le Père Noël vert.
Il aura peut-être encore quelques jouets à distribuer.
Oui, Paul nous l'a dit tout à l'heure, il aura encore peut-être quelques jouets à distribuer, donc n'hésitez pas. Oui, Gisèle ?
Oui, mais non, je voulais préciser que c'est le Père Noël vert, signe de l'espoir.
D'accord. Donc ça, c'est le 22 décembre, cet après-midi, puisque là, vous êtes en train de nous écouter. Donc, venez nous voir cet après-midi sur la place de la collégiale. Ensuite, il y a les colis de Noël, colis réveillon. Alors, il y a Marlène qui nous a rejoint avec Josie, qui nous parlera tout à l'heure d'une autre action qui a été menée durant ce dernier mois. Alors, les colis de Noël, c'est quoi, Marlène ? Tu peux nous expliquer ?
Alors, cette année, vu le grand nombre de personnes que nous aidons au quotidien, nous avons décidé d'améliorer le colis distribué chaque semaine à nos bénéficiaires, parce qu'on en est à plus de 70. Donc, on est allé voir les commerçants pour essayer de faire un colis qui ressemble plus à un repas de Noël, avec du saumon, une canette, une bûche de Noël, voilà, du fromage. On aurait effectivement aimé faire beaucoup plus, distribuer. On a eu des demandes pour faire un nombre de colis impressionnants sur Villefranche, mais bon, on peut pas répondre à toutes les demandes.
Donc voilà pour cette action. Il y a peu aussi. Alors Josy, c'était quand exactement cette action qui s'est passée à Rue dernièrement?
Alors c'était le mardi 18. Donc comme chaque année depuis maintenant 4 ans, l'équipe du Secours Populaire qui intervient dans le cadre du long séjour et maison de retraite pour faire chanter toutes ces personnes tous les mardis de l'année, avait à cœur de faire partager cette action à tout l'ensemble des résidents de Rueil et aux familles qui étaient présentes. Donc il y a eu un super spectacle l'après-midi de chants animés par les chanteurs résidents de Rueil, par l'équipe des bénévoles aussi, qui nous ont fait quelques notes soprano. C'était très très chaleureux. Alors ce que je tiens à signaler, c'est que cette action a été menée vraiment en partenariat avec Sabine et Valérie, qui sont animatrices à Rueil et qui vraiment partagent avec les bénévoles du secours cette action tout au long de l'année. Et ça, c'est vraiment remarquable, ainsi que l'aide du personnel pour descendre les malades, tout. Enfin, c'était vraiment, c'était très émouvant cet après-midi-là. Voilà. Un goûter offert par Rueil, évidemment, leur a été donné à la fin. Et tout le monde est reparti fatigué, mais content. Voilà. Et je voudrais aussi signaler une autre action qui est menée par une autre équipe de bénévoles qui intervient tous les lundis de l'année aussi. Donc, ils ont, de façon à faire réfléchir les enfants sur la situation des personnes âgées plus ou moins seules, ils ont fait dessiner des cartes de Bon Noël à certains enfants à des enfants de certaines écoles qui ont répondu OK. Donc, les enfants ont fait un dessin, les bénévoles ont écrit un petit mot sur la carte et ces cartes sont personnalisées pour chacun des résidents. Et elles ont été distribuées, voilà. Et donc, c'est un petit... je trouve que c'est une action envers enfants et personnes âgées qui me paraît extraordinaire. Voilà. Et c'est surtout leur travail quotidien, toute l'année, tous les lundis après-midi. Voilà. Donc, pour ces actions en maison de retraite, toujours on remercie vraiment le personnel des maisons pour l'accueil qu'ils nous font dans les étages.
Voilà. Et les enseignants aussi.
Et les enseignants, bien sûr, qui ont choisi de faire les dessins aux enfants.
Oui, Couscous.
Ouais, j'ai un petit mot à dire sur le 22, simplement, pour le chocolat chaud. Les Villefranchois et les autres, venez, parce qu'il y a des vacanciers aussi à Villefranche, venez nombreux pour le chocolat. J'ai même entendu dire que le Père Noël distribuerait quelques gourmandises et peut-être quelques jouets. Venez donc nombreux.
Bien justement, puisque tu parles de jouets, il y avait une action qui se tenait il y a peu, c'était la bourse aux jouets, qui se tenait à la salle voûtée, courant de la semaine dernière. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter un petit reportage, puisqu'on y a fait un petit saut d'une petite heure là-bas, et on a interviewé les différents participants à cette action. Bien, bonjour Barbara.
Bonjour.
Alors te voilà dans la bourse aux jouets, tu en es une de celles qui a un peu le cœur, quoi, t'es pas toute seule, vous êtes plusieurs. Alors, qui c'est qui s'en occupe un peu de la bourse aux jouets?
Nous sommes une grande équipe. S'il me fallait citer tous les noms, je serais un peu perdue. Il y a Biquette, il y a Josie, il y a Suzette, il y a Caroline, il y a
Antoinette qui est à côté.
Il y a Laetitia, vous, nous sommes très très nombreuses, il y a Claude. On est un grand, grand groupe de personnes solidaires, comme chaque fois, quoi. Et nous y attelons.
Et comment ça s'organise un peu? Qui c'est? Comment vous récoltez les jouets? Est-ce que c'est trié? Est-ce que c'est... Comment ça se passe?
Eh bien, toute l'année, on trie les jouets. Et c'est un grand, grand travail parce que chaque fois, les gens nous amènent des jouets. On trie en fonction à garçons, filles.
L'âge aussi.
L'âge, tout ça.
L'état,
voilà, oui. Aussi. Et puis, il y a certains magasins qui nous en donnent parce que les cartons, les emballages sont un petit peu abîmés. Et puis, il y a des gens aussi qui achètent du neuf pour nous les offrir. Ça arrive.
D'accord.
Voilà. Et puis, il y a beaucoup, et ça, je trouve ça super, des enfants qui trient dans leur propre boîte à jouets. Et pas facilement parce que c'est des jouets qu'ils aiment, éventuellement, qu'ils aiment. Et avant Noël, ils nous arrivent au secours en nous disant « J'ai prévu un ou deux jouets pour vous, mais on voit qu'ils ont un peu de mal à les donner. » Mais ça, je trouve parce que c'est très beau, c'est très bien et ça fait plaisir.
Donc cette bourse aux jouets, elle s'est déroulée du 14, 15, 16, c'est ça? Non, pardon. 12, 13, 14, voilà. Autant pour moi. Et voilà. A priori, ça a très bien marché.
Ça a très très bien marché, oui, oui. On a eu beaucoup, beaucoup de monde. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a encore plus de familles qui viennent, qui sont embêtées de venir nous voir parce que c'est Noël, quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de familles qu'avant. Mais je trouve qu'il y a, on va dire, allez, 30% de plus de familles qui sont venues cette année que je n'avais jamais vues.
30%?
Oui.
Mais c'est énorme.
Oui, c'est énorme, oui. Et des gens très embêtés qui restaient devant la porte et qui ne savaient pas s'ils pouvaient se permettre de rentrer. Et qu'une fois rentrés, ils étaient heureux. Et ils sont partis en nous disant joyeux Noël et oui. Avec le sourire.
En plus, ces gens, quand ils viennent ici... Et qu'ils achètent, qu'ils donnent une participation contre un jouet, ils participent aussi à la solidarité, puisque je crois que tout ce qui va être retiré de cette bourse aux jouets va servir à la culture,
oui.
À l'accès à la culture, oui, c'est-à-dire. Oui.
Mais j'ai vu beaucoup de gens, et ça aussi c'est bien, qui ont acheté des jeux de société. Mmh. En disant le soir, on s'est aperçu que le soir il fallait. Essayer de jouer avec nos enfants au moins une petite demi-heure avant d'aller au lit. Et on a envie de vivre avec nos enfants. On n'a plus envie d'être au travail, se plaindre pour l'argent, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas. On a envie de vivre avec eux. On a envie d'être serré avec nos enfants pour essayer de leur donner le maximum. Et il y a un monsieur qui n'avait pas beaucoup d'argent. Et il était gêné. Il a acheté un jeu de société. Il a dit, on va y passer le jour de Noël, on va se régaler. Avec une bûche de Noël, offerte par nous-mêmes, par le secours.
Oui, bien sûr.
Et une petite bouteille de Pepsi. Excusez-moi la marque. Parce qu'on va se régaler et pour nous, ça sera un bon Noël.
D'accord. Et tout ce qui va en ressortir d'ici, c'est-à-dire tout cet argent que nous allons récolter en participation, je crois qu'il permet, d'aller au moins au cinéma. Quoi,
oui, il faut savoir que cette vente de jouets est exclusivement réservée aux enfants. Mmh. Et donc il y aura sûrement une journée cinéma où on va peut-être organiser autre chose autour du cinéma pour les familles. Et après, ça sert pour... Les sports d'hiver. Et s'il en reste, ça sert pour l'été éventuellement, mais ça sert que pour les enfants.
D'accord. Ben, merci à toi, Barbara. Super travail. Hein,
oui. Comme d'hab. Excusez-moi, parce que chaque fois, comme toujours, je radote.
les auditeurs ont l'habitude maintenant. Allez, bon courage.
Je radote, je bégaye.
Bien, mesdames, vous êtes rentrées dans la bourse aux jouets. Du Secours Populaire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'intérêt que vous portez, des choses que peut vous apporter la bourse aux jouets?
Que c'est très intéressant, qu'on peut au moins faire des cadeaux à ceux-là qu'on aime, et que les prix sont très intéressants, et que tous ceux-là qui y participent, et l'organisation, je trouve ça très très joli, très bien fait, que ça devrait être un peu de partout. Malheureusement, il n'y en a pas de partout. Mmh. Et que quand tu as une famille nombreuse, c'est très intéressant, quoi.
Oui, ça vous permet de choyer un peu la famille.
Voilà, et pas trop trop cher. Et on peut au moins, après, acheter de quoi manger et pas mettre tout l'argent que dans les jouets.
Tout à fait, tout à fait. Et en plus, vous pouvez quand même les gâter, malgré tout.
Ah oui, même bien les gâter, quoi. Au lieu d'acheter 3 jouets, là, on peut avoir au moins une dizaine de jouets. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est du neuf, quoi. Et c'est du recyclage, donc ça évite que ça va dans les poubelles.
D'accord.
Donc moi, je trouve ça très intéressant.
Et vous avez été bien accueillis ici?
Ah oui, là, pas de souci, on a été très très bien accueillis.
Attention, parce qu'il y a Barbara qui vous surveille. Hein.
Non,
à ce que vous dites.
Non, non, même très aimable. Oui, il n'y a pas de problème. En plus, quand on prend beaucoup de choses, on a un petit cadeau, ça fait plaisir. Les CD, c'est très intéressant. Je trouve ça bien pour les enfants. Donc non, moi je trouve ça très bien. C'est la première année que j'y suis allé et je le referai. Je reviendrai.
Surtout qu'en plus, vous savez que quand vous faites ce geste, que vous venez, que vous donnez donc une participation contre des jouets, Cet argent que vous donnez en participation sert après pour les enfants, à les envoyer au cinéma, à les envoyer au sport d'hiver. Donc vous-même, quand vous venez ici, ben vous faites vous-même un geste de solidarité, puisque vous allez aider, par l'argent que vous allez donner en participation, des enfants à aller au cinéma et à aller au sport d'hiver.
Oui, c'est vrai que ça c'est bien, et puis au moins on a fait quelque chose pour Noël, parce que Noël c'est d'abord le partage.
Voilà.
Donc c'est très bien pour tout le monde, ça arrange tout le monde, et je trouve que voilà, ça devrait être dans toutes les villes. Malheureusement, c'est pas dans toutes les villes. Moi, c'est la première année que je connais ça, et je trouve que c'est très bien.
Bien.
Voilà.
Ben merci. Alors à l'année prochaine.
Ben merci à vous.
Merci. Au revoir. Au revoir. Bien, mais après ce petit reportage in vivo à la salle voûtée, là où se tenait la bourse aux jouets, je tiens à amener une petite précision. Après débat avec les membres du bureau du secours, en réalité, nous avons offert 150 places de cirque aux bénéficiaires du secours populaire au lieu de les envoyer au cinéma. Et donc ces places, eh ben, ils iront ce soir, samedi, au cirque. Je crois que c'est Zavata qui est là, hein, c'est ça. Donc 150 bénéficiaires pourront aller en famille grâce à cette bourse aux jouets, à cette action menée il y a une dizaine de jours, pourront aller en famille au cirque. Enfin, ben, sachez que nous avons au Secours Populaire un nouveau local qui se trouve au 38 rue Alibert, qui est ouvert, qui a été inauguré maintenant il y a deux jours. Et ce local, eh bien, c'est celui qui remplace celui de la rue du Marteau, c'est ça, hein, Couscous, je ne me trompe pas, où nous avions là stocké notre mobilier, le mobilier que nous proposions aux gens qui venaient nous voir. Donc maintenant, il s'est rapproché dans un local un peu plus spacieux, un peu plus clair, on va dire. C'est un peu plus neuf, quoi, voilà. Et on vous invite tous à venir dans ce local, faire un petit tour, voir s'il y a des meubles qui vous plaisent. Et de toute façon, sachez que le mois prochain, l'émission, on la fera avec les personnes qui s'occupent justement de gérer ce local et de gérer tout ce mobilier et différents électroménagers qu'on peut y trouver. Voilà, il est bientôt temps de se quitter. Alors, on va remercier évidemment tous nos invités qui étaient là avec nous, Paul, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, Véronique, Couscous, Gisèle, nous, hein, on se remercie plus longtemps, nous, hein. On se connaît, on est les habitués. Alors, Véro, tu peux nous rappeler l'adresse email, le site, pardon, de...
Oui, juste avant de vous rappeler, je disais, Marlène, tout à l'heure, vous a dit, on aurait aimé faire plus. Donc, vous imaginez, actuellement, on est obligé de, plus ou moins de faire, pas un choix, mais on est limité par nos moyens financiers, donc limité par le nombre de colis qu'on peut distribuer. Donc, si demain, on est privé de l'aide de l'Union européenne, c'est même plus faire un choix, c'est-à-dire qu'on ne fera plus rien. Donc, le 22 décembre, le Père Noël Vert sera dans les rues de Villefranche, en même temps qu'à Paris seront mobilisées les quatre associations pour défendre l'aide de l'Union européenne. Donc, c'est important pour tous, c'est important que chacun vous allie sur le site, donc, en faisant www.theairfoodproject.com et que vous témoigniez de votre soutien. Et puis, on compte sur vous le 23 janvier pour nous retrouver à Rodez et venir le plus nombreux possible à façon qu'on ne supprime pas l'aide de l'Union européenne. Voilà.
Bien, écoutez, chers auditeurs, j'espère que ce petit débat sur le PEAD vous a un peu éclairé sur les problèmes qui se dressent devant nous. Nous comptons évidemment sur votre solidarité, bien sûr. Et puis on vous dit au mois prochain, déjà à cet après-midi sur la place de la Collégiale. Et on vous dit au mois prochain. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir tout le monde.
Eh bien bonsoir. Merci d'avoir acheté le nouvel album de Vampas. Et c'est parti pour 45 minutes.
Pa 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 p